Imaginez un instant lancer une entreprise hyper rentable avec quoi, seulement 3000 dirhams en poche.
Ouais, c'est même pas le prix d'un smartphone de milieu de gamme aujourd'hui.
Bah exactement. Et pour commencer cette semaine, avec une énergie de dingue et des idées plein la tête, on espère d'ailleurs que tout le monde passe une semaine absolument merveilleuse, bah on va plonger directement dans un document qui promet exactement ça.
Un projet très concret, oui.
Grave. Pour quiconque cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat sans risquer les économies toute une vie, l'exploration d'aujourd'hui, c'est une vraie masterclass. On est le mercredi 9 septembre 2026 et un guide fascinant vient tout juste de sortir ce matin sur la plateforme monprojet.ma.
Un guide très ciblé d'ailleurs pour la jeunesse marocaine.
C'est ça. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser ce plan d'action qui détaille comment monétiser l'odeur du msemen bien chaud et tout le charme un peu chaotique de la street food en devenant guide culinaire freelance.
Ouais, c'est un concept génial.
Allez, on décortique tout ça. Avant de parler de marge bénéficiaire ou de stratégie sur les réseaux, il faut comprendre le moteur derrière tout ça en fait. Pourquoi ce marché très précis de la street food explose cette année?
Bah, pour comprendre cette dynamique, il faut s'éloigner de la rue un instant et regarder la macroéconomie en fait. Le guide s'appuie sur une donnée de base. Le Maroc a accueilli presque 15,9 millions de touristes en 2024.
Ah ouais, c'est massif.
C'est énorme. Et avec la Coupe du Monde 2030 qui approche à grands pas, l'État injecte des milliards dans les infrastructures pour soutenir cette croissance. Mais le volume de touristes, ça fait pas tout, quoi.
Non, c'est sûr.
Ce qui compte vraiment, c'est le changement de comportement. Le tourisme expérientiel, et surtout le tourisme culinaire, ça capte maintenant plus de 30% du budget des voyageurs, si on enlève l'hébergement, bien sûr.
30%! Sérieux, c'est un pivot de dingue.
C'est énorme, ouais.
J'aime bien utiliser une petite analogie pour expliquer ça, tu vois. Le tourisme classique d'il y a 10 ans, c'était comme regarder un beau documentaire historique à la télé. Le guide parle, on regarde un vieux mur, on essaye de retenir 2 dates et on reste super passif.
Ouais, la visite classique un peu ennuyeuse.
Exactement. Alors que le tourisme expérientiel d'aujourd'hui, c'est genre concevoir un jeu vidéo en monde ouvert où le touriste, c'est le personnage principal.
C'est une super image.
Il n'y a plus cette envie d'écouter un long monologue devant un bâtiment. Le touriste d'aujourd'hui, il veut que le jus d'orange pressé de la place Jemaa el Fna, ça lui coule un peu sur les doigts. Il veut sentir la fumée des étals d'escargot. Il veut vraiment interagir avec la matière, quoi.
C'est net. Et ce qui est fascinant ici, c'est précisément la façon dont cette soif d'interaction a complètement segmenté le marché. Le guide de monprojet.m montre bien que la cible, c'est plus du tout juste le routard ou le couple européen qui cherche le dépaysement.
C'est devenu beaucoup plus large que ça.
La démographie a explosé, oui. On a de nouveaux profils.
D'ailleurs, le document parle des Marocains résidant à l'étranger, les MRE.
Tout à fait. Quand les MRE rentrent pour les vacances d'été, ils cherchent souvent à reconnecter leurs enfants à un héritage culturel qu'ils ont parfois du mal à transmettre au quotidien à l'étranger.
Ah oui, donc la bouffe devient un prétexte.
Voilà, une visite culinaire dans la Médina, ça devient un vrai pont intergénérationnel. Et puis, et ça c'est super intéressant, il y a un autre segment inattendu mais hyper lucratif.
Lequel?
Les entreprises.
Attends, du team building d'entreprise avec de la street food. Je veux dire, pourquoi une grosse boîte paierait pour que ses cadres aillent manger dans la rue au lieu de privatiser un grand resto chic?
Simplement parce que la dynamique sociale de la rue, ça détruit les hiérarchies.
Ah, pas bête.
Partager un bol de harira debout dans le bruit en s'essuyant les mains avec un vieux bout de papier, ça crée des liens humains beaucoup plus rapides et authentiques qu'un énième séminaire hyper froid dans une salle climatisée.
C'est clair, le costard-cravate en prend un coup.
Grave. Et les départements des ressources humaines l'ont très bien compris.
Ok, je vois bien la demande, hein, avec tous ces segments, mais ça m'amène à une vraie question. Pourquoi un client irait payer un guide spécialisé juste en la street food alors qu'un guide traditionnel pourrait très bien faire son circuit historique classique et juste faire un petit arrêt pour manger un bois à la fin?
C'est là que réside toute la différence entre la simple logistique et ce qu'on appelle l'ingénierie narrative.
L'ingénierie narrative.
C'est-à-dire, un guide généraliste, il va juste dire, voilà, un msemen, ça coûte 5 dirhams, allez-y, goûtez. Le guide spécialisé... Lui, il utilise vraiment le storytelling.
Il raconte une histoire, quoi.
Exactement. Il te vend pas juste une crêpe. Il vend l'histoire de la dame qui prépare ça sur sa plaque depuis 30 ans. Il va t'expliquer la technique de pliage de la pâte. Il va contextualiser les épices par rapport à l'histoire de la route de la soie qui passait par le Maroc.
Ah ouais? On n'est plus du tout sur le même produit.
C'est ça le truc. C'est ce mécanisme psychologique qui justifie de facturer un service premium pour une nourriture qui, à la base, coûte presque rien.
Le client y paye pour cet accès privilégié et le décryptage culturel, pas pour l'eau et la farine. Et justement, cette déconnexion entre le coût réel des ingrédients et le prix de l'expérience, ça nous propulse direct dans la magie des chiffres de ce guide. Parce que d'habitude, lancer un truc dans la restauration, c'est un cauchemar financier.
Un vrai gouffre, oui.
Genre, on parle de centaines de milliers de dirhams juste pour un pot food truck avec les normes d'hygiène de base. Mais là, le modèle est complètement différent.
C'est le jour et la nuit. Le guide illustre deux scénarios financiers. Le premier, il l'appelle le scénario starter. Et ça demande une mise de fonds ridicule, genre 3000 dirhams.
3000, c'est dingue.
Ouais, ça sert juste à payer un forfait internet, un smartphone correct pour faire des vidéos et les petits frais de création de statut. Et avec ça, juste en vendant quelques petits groupes par semaine, le revenu estimé tourne autour de 12 000 dirhams par mois.
Ok, et le deuxième scénario ?
C'est le scénario avancé. Là, on est sur 8 000 dirhams d'investissement pour s'acheter un micro pro, faire un petit site web. Et là, ça peut générer dans les 22 000 dirhams par mois.
Bon, attends. Je t'arrête tout de suite parce que c'est là que mon radar à fausses promesses se déclenche à fond.
Je m'en doutais.
Non mais le guide de mon projet.ma a annoncé une marge nette de plus de 90% et affirme qu'on peut rembourser son investissement de départ en moins d'un mois. Enfin, dans le monde réel des affaires, des marges de 90%, ça n'existe pas, à part dans la tech et les logiciels. Comment c'est mathématiquement possible?
C'est une excellente réaction. Avoir ce scepticisme, c'est vital quand on lit un business plan.
Bah oui, ça paraît trop beau.
Mais si on décortique vraiment la générie de leurs coûts, en fait, l'explication devient hyper limpide. L'astuce, c'est la différence entre les coûts fixes et les coûts variables.
D'accord, développe.
Pense à un restaurant classique comme un gros train de marchandises. Qu'il soit rempli de passagers ou complètement vide, il consomme du carburant. Faut payer le personnel, faut entretenir le local, l'électricité. Les coûts fixes t'étranglent.
Ouais, si t'as pas de clients en mardi soir, tu perds de l'argent.
Exactement. Alors que ce modèle de freelance culinaire...
C'est quoi du coup? C'est pas un train?
C'est une planche de surf.
Une planche de surf?
Ouais, s'il y a pas de vagues, c'est-à-dire pas de touristes un certain jour, tu restes sur la plage. Ça te coûte absolument rien d'attendre.
Ah ouais, je vois le délire.
T'as pas de loyer commercial à payer, pas de facture d'électricité industrielle, t'as aucun stock de viande qui risque de pourrir dans un frigo, et t'as aucun salaire à verser vu que t'es tout seul.
Donc les seuls vrais coûts...
C'est proportionnel au nombre de clients. C'est tes frais de déplacement et la petite nourriture achetée pendant la visite. Les charges fixes mensuelles, le guide les estime à peine à 800 dirhams, juste pour le téléphone et l'assurance.
D'accord. Vu comme ça, les mathématiques tiennent grave la route. Mais ça soulève un gros problème éthique et commercial dans ma tête.
Lequel?
Si moi je facture 250 dirhams par touriste, que je garde ma marge de ouf, et que la nourriture me coûte trois fois rien, est-ce que je suis pas carrément en train d'exploiter les vendeurs de street food qui, eux, ils se brûlent les mains sur leur plaque toute la journée pour quelques dirhams?
C'est un point super valide. Et c'est une friction hyper importante que le guide aborde d'ailleurs en détail dans sa phase de création de partenariat.
Ah, ils en parlent?
Oui, le but, c'est absolument pas d'aller acheter un msemen à 5 dirhams et de partir en courant avec ton groupe. Le modèle, il repose sur la symbiose.
C'est-à-dire?
Le freelance, il apporte aux vendeurs de rue un truc très rare dans son métier. Un volume garanti et régulier de clients. Et souvent pendant les heures creuses, genre le milieu de la matinée.
Ouais, quand il n'y a personne...
Voilà. En plus, un bon guide va rémunérer le vendeur au-dessus du prix public.
Ah, pour compenser le temps passé avec le groupe?
Exactement. Pour compenser le temps où il va faire une petite démo de préparation ou juste sourire pour les photos des touristes, au final, le vendeur gagne beaucoup plus sur cette petite interaction qu'avec un client lambda.
C'est donnant-donnant, en fait.
Totalement. Et le freelance garde sa grosse marge parce que ce qu'il vend, on l'a dit, c'est pas le plat, c'est la curation de l'expérience globale.
C'est super logique. C'est un écosystème où tout le monde y trouve son compte, mais parce qu'il y a toujours un mais. Toutes ces belles marges, elles tombent à zéro si l'État décide de fermer ton activité parce que t'es dans l'illégalité.
Bien sûr, le cadre légal, c'est la base.
On sait très bien à quel point la profession de guide touristique, elle est hyper protégée au Maroc. Historiquement, faut passer par des instituts étatiques, faut la carte pro du ministère. C'est un vrai parcours du combattant.
C'est très strict, ouais.
Du coup, comment ce guide peut prétendre qu'on peut s'en servir en seulement 8 semaines?
Parce qu'il s'appuie sur une nuance réglementaire très fine, en fait. Le document, il te dit absolument pas de te déclarer comme, je cite, « guide conférencier ».
D'accord.
Si t'emmènes des touristes dans le Palais Baya ou au tombeau saadien pour leur raconter l'histoire des dynasties, là, oui, tu usurpes une profession très réglementée et tu vas avoir de gros problèmes.
C'est clair. Alors, comment on contourne cet obstacle de façon légale?
En utilisant le statut spécifique d'animateur d'expérience culinaire.
Ah, La sémantique est importante.
Très importante. Ton terrain de jeu, c'est l'espace public, les petits marchés et l'intérieur des écopes de tes partenaires. T'es pas là pour donner un cours d'architecture du XIIe siècle. T'es là pour animer une dégustation itinérante.
Je vois la subtilité.
Bien sûr, faut toujours vérifier les termes exacts avec les autorités locales. Mais cette distinction, elle te permet de rentrer parfaitement dans les cases des expériences que proposent les plateformes numériques aujourd'hui.
Et le document, il conseille d'ailleurs de structurer tout ça sous le régime de l'auto-entrepreneur. On rappelle que c'est 100% gratuit. L'inscription se fait en deux clics sur ae.gov.ma.
C'est très rapide.
Et pour ceux qui se posent la question, ce statut permet l'affiliation à la CNSS. Donc en tant que petit freelance solo, tu restes pas caché dans l'économie informelle, quoi. Tu te branches directement sur le système de santé et de retraite. Ça rassure de fou.
C'est clair. Et c'est cette sécurité de base qui sert de socle à leur fameuse feuille de route de 8 semaines.
Ouais, parlons-en de cette feuille de route.
Les deux premières semaines, elles sont dédiées juste à régler cette paperasse depuis ton canapé. Mais c'est vraiment les semaines 3 et 4 qui sont le cœur du réacteur, le travail de terrain.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment tu vas approcher un artisan dans la Médina qui est en train de gérer genre 60 commandes à l'heure pour lui proposer ton truc ?
Bah déjà, avec beaucoup de respect pour son rythme. Le guide l'explique très bien. Règle numéro 1, tu l'interromps jamais pendant le coup de feu de midi.
Bon, sens de base, ouais.
Tu fais du repérage d'abord, tu regardes la propreté du stand, l'affluence, la vibe du vendeur. Et ensuite, tu reviens soit très tôt le matin, soit en milieu d'après-midi quand c'est calme.
Et tu lui dis quoi ?
Tu lui expliques ton concept simplement. Genre, je vais vous amener des petits groupes de 4 personnes, 3 fois par semaine, et je vous paye tout à l'avance.
Ah ouais, l'argent d'avance, ça parle.
Grave, c'est cet argument du revenu garanti, sans aucune friction pour lui, qui va le convaincre de jouer le jeu et de partager son savoir-faire.
Mais ça soulève quand même un risque assez flippant. Je veux dire, si on emmène des touristes étrangers manger dans la rue, leurs estomacs ne sont pas forcément habitués aux épices d'ici ou juste à l'eau locale. Le risque sanitaire, il est énorme.
C'est le gros point noir, ouais.
Un seul mec qui fait une grosse intoxication alimentaire, il te lâche un avis dévastateur sur Google et ton business, il est fini en 24 heures.
Cela soulève une question importante, c'est vrai. C'est toute la gestion de crise. Et le guide insiste sur deux grands remparts pour ça.
Lesquels ?
Le premier rempart, on en a un peu parlé, c'est la sélection ultra-draconienne des partenaires pendant les semaines 3 et 4.
Faut pas prendre n'importe qui.
Exactement. L'hygiène du stand doit être clinique, même si on est dans la rue. Et le deuxième rempart, c'est administratif. C'est la souscription obligatoire et immédiate à une assurance responsabilité civile professionnelle.
La fameuse RCP.
Voilà, c'est ta ceinture de sécurité. S'il y a un pépin médical ou même juste une petite blessure parce que quelqu'un a trébuché dans la Médina, l'auto-entrepreneur, il ne peut pas se retrouver ruiné personnellement à cause de ça.
Ouais, ça protège ton patrimoine. Bon, ok. Donc, on a le statut légal, on a l'assurance, les partenaires sont briefés, la bouffe est bonne, le circuit est prêt, mais ben, en fait, on est invisible.
On a un fantôme, oui.
C'est ça. On a construit un super magasin, mais on est au beau milieu du désert. Comment on fait venir les clients ?
C'est le nerf de la guerre, l'acquisition client. Et ce qui est intéressant, c'est que le guide rejette complètement la publicité Facebook ou Google classique.
Ah bon ? Il part sur quoi alors ?
Sur une stratégie 100% visuelle et organique, axée sur TikTok et Instagram.
Ok, avec des hashtags genre hashtag Morocco Food Tour, ce genre de truc ?
C'est ça. Mais surtout, le guide insiste sur un truc crucial, le format.
Faut surtout pas faire de belles vidéos promotionnelles hyper lisses.
Pourquoi ? C'est ce que font toutes les agences de voyage pourtant.
Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la perfection s'ennuie à mourir. L'algorithme y récompense le temps de visionnage, l'authenticité.
Si c'est trop beau, on se dit que c'est faux. Voilà, une vidéo trop produite, on dirait une pub, on swipe direct. Par contre, si tu filmes en mode point de vue, à la première personne, tu laisses le bruit chaotique de la rue, tu montres l'huile qui grésille, la vapeur de la marmite, ou même juste la tête d'un touriste qui croque dans un piment pour la première fois.
Ah oui, la petite larme à l'œil.
Exactement. Ça crée une connexion émotionnelle de fou. Le gars derrière son écran, il se projette direct à la place du touriste.
Bon, l'engagement organique, c'est bien beau, t'as plein de likes. Mais bon, les likes, ça paye pas ton loyer.
Non, ça c'est sûr.
Pour transformer ces vues en vraies réservations, le guide dit qu'il faut s'inscrire sur les gros mastodontes, genre Airbnb Experience, Get Your Guide ou Viator. Mais il y a un énorme hic dans le document.
Les commissions.
Bah oui. Ils disent que ces plateformes prennent entre 15 et 25% sur chaque vente. C'est colossal. Pourquoi t'irais céder un quart de ton argent à une plateforme américaine alors que tu fais tout le boulot ?
C'est vrai que ça pique au début. Mais si on relie ça à la vision globale de l'entreprise, faut pas voir ça comme une perte d'argent. c'est ton coût d'acquisition client.
C'est-à-dire que tu paies pour qu'on trouve.
Exactement. Et à cette échelle, c'est presque donné. Ces plateformes, elles claquent des millions en pub Google. Quand un touriste à Londres ou à Tokyo tape « Que faire à Fès ou à Marrakech ?», c'est eux qui sortent en premier. C'est pas ton petit site web.
Ouais, t'es noyé sinon.
Tu payes cette commission pour avoir accès à un trafic mondial de dingue. Et en plus, ils te fournissent un truc essentiel, l'infrastructure de confiance.
C'est-à-dire le paiement sécurisé.
Le paiement sécurisé, oui, mais surtout les avis certifiés. Tu peux pas créer de faux avis sur Airbnb. Le client doit vraiment avoir fait l'activité.
Ah, les fameux avis 5 étoiles. Le bouche à oreille d'aujourd'hui, quoi.
C'est ça.
Mais d'ailleurs, le guide, il donne pas aussi une petite technique hors ligne, un peu maligne, pour contourner cet impôt du web?
Si, carrément. C'est le réseau local. L'idée, c'est d'aller voir directement les gérants des riads et des petites maisons d'hôtes dans la médina.
Et tu leur proposes quoi?
Un deal super simple. Le riad recommande ton activité à ses clients au petit déjeuner, et toi, tu reverses au gérant une commission en direct de l'ordre de 10 à 15%.
Ah, c'est gagnant-gagnant, et c'est moins cher que les grosses plateformes.
Voilà. Pas d'algorithme, juste de la relation humaine pure et une com plus basse. Ça convertit littéralement les réceptionnistes de ta ville en ta propre force de vente.
C'est super malin. Et d'ailleurs, pour amorcer la pompe, en ligne ou avec les riads, le guide donne une technique de prix assez agressive au tout début, non?
Oui, le pricing psychologique de lancement. Ils te disent de lancer ton tour à seulement 200 dirhams.
210 dirhams?
Mais t'es pas rentable du tout.
Mais le but, c'est pas d'être rentable la première semaine. Le guide explique qu'il faut lancer l'expérience en dessous du prix du marché. Ton vrai objectif caché, c'est d'acheter tes 50 premiers avis 5 étoiles.
Ah, tu brades pour accumuler de la preuve sociale.
Exactement. Et une fois que ta page TripAdvisor est blindée d'avis incroyables, que l'algorithme t'a mis en numéro 1 sur la ville, là, tu fermes le piège.
Et tu montes les prix. Tu passes au prix de croisière, genre 250 dirhams par personne en groupe, et tu peux même ouvrir des petits créneaux privés VIP à 500 dirhams. C'est du pur hacking d'algorithme.
C'est machiavélique, mais ça marche de ouf. Bon, il y a quand même un dernier gros nuage noir dont on doit parler. La bête noire du tourisme au Maroc.
La saisonnalité.
Voilà. Les mois de juillet et août, ça peut être de la vraie canicule dans certaines villes. Les arrivées internationales, elles chutent d'un coup. Comment ton petit business y survit quand ta cible principale, elle a juste déserté le pays?
C'est là que le guide opère un pivot stratégique super intelligent. Au lieu de s'entêter à payer de la pub pour chercher des Américains ou des Européens qui sont pas là, bah tu changes complètement de cible.
Tu vises qui alors?
Le tourisme interne. Les Marocains et surtout les MRE dont on parlait tout à l'heure, qui reviennent massivement l'été.
Ah, le pont générationnel. Mais tu leur racontes pas la même chose?
Sûrement pas. C'est là que ton storytelling doit s'adapter. Tu vas pas expliquer à un MRE de troisième génération ce que c'est que du cumin.
Ce serait un peu condescendant.
Grave. L'animateur doit modifier son parcours. Il va proposer des trucs peut-être plus familiaux, vraiment axés sur des spécialités ultra-régionales pour retrouver le goût de la cuisine des grands-parents. Et puis, rappelle-toi notre métaphore de la planche de surf.
Ah oui, pas de vagues, pas de coups.
Voilà. Même si ton chiffre d'affaires il baisse un peu en plein mois d'août, comme t'as aucun coût fixe lourd derrière, ben tu risques pas de faire faillite pendant ce creux.
C'est super rassurant pour un jeune qui se lance.
Totalement.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond si on doit vraiment cristalliser l'essence de ce guide de mon projet.mf? Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est pas juste un petit tuto YouTube pour se faire de l'argent de poche le week-end, tu vois.
Non, c'est beaucoup plus profond que ça.
C'est un vrai plan d'affaires qui prend un truc banal, marcher dans la rue, manger avec les doigts, et qu'il transforme en une machine économique hyper bien huilée.
En fait, c'est la traduction d'un héritage culturel en valeur économique directe. Et ça, sans le dénaturer ou l'industrialiser à outrance.
C'est ça. Ça démocratise l'entrepreneuriat pour toute une jeunesse qui n'a pas forcément accès au crédit bancaire classique. T'as presque pas de barrière à l'entrée. T'es protégé contre la faillite grâce aux coûts variables. Et tu aides concrètement les artisans de ton quartier.
C'est un cercle vertueux, oui.
À condition, bien sûr, de se taper la paperasse avec rigueur, de bien comprendre comment jouer avec l'algorithme et les prix, et d'accepter que le vrai métier ici, eh ben, c'est pas de manger.
C'est de raconter.
Exactement.
Et tu sais, si on étire un peu cette logique jusqu'à son point de rupture créatif, ça nous mène à une réflexion hyper intéressante.
Vas-y, je t'écoute.
Imagine un peu la scène. T'as un jeune entrepreneur qui a parfaitement compris et maîtrisé cette ingénierie dans les petites ruelles de Marrakech. Il a dompté TripAdvisor, ses partenaires l'adorent, ses marges sont solides.
Le mec est le roi de son quartier.
Voilà. Mais le truc, c'est que chaque grande ville marocaine, c'est un univers culinaire indépendant. T'as les pâtisseries ancestrales à Fès, les fruits de mer sur le port des Saouira, le bouillonnement hyper cosmopolite de la rue à Casablanca.
C'est clair.
La question qui se pose alors, c'est pourquoi ce mec s'arrêterait à une petite activité de freelance dans son coin ? Qu'est-ce qui l'empêche de prendre sa méthode, son storytelling, ses critères de recrutement et de transformer son petit succès local en un immense réseau national ?
À créer une vraie franchise, quoi.
Exactement.
En formant d'autres jeunes pour opérer sous la même marque à travers tout le pays.
C'est ouf !
Il s'avère du coup que le prochain énorme empire économique marocain, il va peut-être pas se construire dans un open space technologique aseptisé avec des millions de levées de fonds.
Non, pas du tout.
Il va peut-être naître juste là, au coin de la rue, à côté d'une plaque de msemen bien brûlante, dans le bruit, la fumée et la chaleur de la Médina. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette exploration. On vous souhaite une excellente suite de journée. Déchirez tout cette semaine et gardez toujours l'esprit ouvert.